L'histoire qu'on va vous raconter donne vraiment des frissons. On va essayer de se mettre à la place de Nathalie qui va nous raconter ce qu'elle a vécu. Elle a été avec son conjoint une vingtaine d'années. Ils ont eu des enfants. Ils ont 3 enfants. Et là, il y a 7 ans, son conjoint tombe amoureux de sa meilleure amie d'enfance à elle. Et Nathalie est toujours un peu en train de comprendre ce qui s'est passé. Elle est avec nous ce matin. Elle a accepté de témoigner de ça. Merci, Nathalie, d'être là. C'est une histoire assez rocambolesque et effrayante aussi, parce qu'en même temps, on s'attend pas à ça. Mettez-nous un peu dans le contexte. 20 ans de vie commune, comment ça se passait dans votre couple?
Bien, pour être honnête, je pense que notre histoire commençait à s'essouffler. Ça là-dessus, on avait nos problèmes, on avait... c'est long, hein, 20 ans avec quelqu'un.
L'usure du temps faisait son œuvre.
Oui. Puis ça, j'ai pas de problème à vivre avec cette notion-là. Donc évidemment, on était un petit peu en période d'essayer de sauver tout ça, essayer de travailler là-dessus. Mais d'une certaine façon, je crois qu'on était tous les deux préparés à ce que cette histoire-là finisse par avoir une fin. J'aurais aimé que ça se passe autrement, ça c'est certain toutefois.
Ouais. Pendant ce temps-là, vous vous confiez à votre meilleure amie?
Ben oui, entre autres. Des bonnes amies, j'en ai beaucoup. J'étais bien entourée là-dedans, mais c'est certain que cette personne-là avait... disons qu'elle me connaissait depuis toujours, ce qui fait que avec ces gens-là, on se sent toujours... on peut être complètement soi-même, puis on peut aller loin dans les confidences, puis dans l'aisance à parler de nos difficultés, puis notre vulnérabilité. Donc oui, c'est certain qu'elle était... Elle savait tout ça, bien sûr. Ouais.
C'était votre meilleure amie d'enfance parce que vous aviez des photos qui remontaient jusqu'à l'âge de 10 ans à 10 ans, deux petites filles, vous êtes ensemble,
ouais,
donc vous avez fait votre vie ensemble.
Oui, c'est
Est-ce qu'elle avait un conjoint également?
Ben oui, bien sûr, elle avait une famille aussi.
Enfants?
Oui. Donc nos enfants se connaissaient depuis toujours aussi. Ouais.
Puis vous étiez proches, les deux couples, les familles?
Pas tant au niveau des couples, mais moi et elle et nos enfants, oui, tout à fait, oui.
Mais vous êtes allés en vacances ensemble.
Oui, on a vécu toutes sortes d'affaires. Oui, on a vécu des moments de vacances.
Avec votre conjoint de l'époque?
Oui,
qui est devenu, qui est devenu le sien.
Ouais.
Comment ça a commencé, les doutes que vous aviez par rapport à votre conjoint, votre ex aujourd'hui, votre meilleur ami?
Bien, il s'éloignait un petit peu de moi. Puis je sais qu'ils avaient commencé à développer une amitié plus proche parce qu'elle avait vécu ses difficultés justement dans sa vie. Puis elle venait beaucoup à la maison, on s'occupait d'elle, on discutait de tout ça. Elle, sa séparation de son côté, tout ça. On se rapprochait, ces deux-là se rapprochaient. Mais moi, j'étais pas de nature méfiante. J'aimais beaucoup que ces deux personnes-là que j'adorais soient bien ensemble. On se méfie pas d'une personne de qui on est si proche. J'ai jamais ressenti de méfiance envers elle. Jamais.
Et puis, votre conjoint de l'époque, vous pensiez pas qu'il allait vous tromper avec votre meilleure amie, là?
Non. Tu me trompes à la rigueur, oui, mais non, pas avec elle. En fait, c'est ça qui est difficile à... C'est qu'il y a toutes sortes de paramètres. L'infidélité, disons, au niveau sexuel, tout ça, pour moi, ça n'a peut-être pas la même connotation. C'est pas quelque chose qui m'a blessée autant. C'est plus le côté... C'est plus le fait que... La loyauté, pour moi, en amitié, c'est vraiment une valeur fondamentale. D'ailleurs, j'entretiens beaucoup de belles amitiés sur de longues années. Et moi, c'est ça qui m'a le plus violemment frappée. C'est parce qu'à la rigueur, avec mon conjoint, si ça va pas, ça, c'est une chose. Mais l'amitié, on pense que c'est pour la vie. En tout cas, moi, j'y croyais. J'y croyais. J'ai une confiance aveugle. Ouais.
C'est ça qui est fascinant dans votre histoire et dans le récit que vous en faites. Ça m'a frappé en lisant la recherche sur sur cet événement qui s'est passé dans votre vie. C'est que vous êtes plus marqué par la brisure d'amitié que par le bris du couple. Mais dans le fond, il y a eu comme 2 trahisons ici parce que votre conjoint... à la rigueur aussi, vous a trahi.
Oui, parce
pas que votre meilleure amie non plus.
Oui, effectivement.
Mais c'est votre meilleure amie qui vous fait le plus de peine, finalement.
Oui, absolument. C'est comme c'est une amitié qui remonte à l'enfance. Moi, je trouve que c'est un peu comme une fondation. Ça fait partie de nos fondations. on construit notre identité avec ces personnes-là. Puis quand ils sont toujours présents dans notre vie pendant 10, 20, 30 ans, on dirait qu'ils font partie de notre ADN, ces gens-là. Donc, moi, ça m'a énormément ébranlée. C'est comme si, l'espèce d'expression un peu cliché, le plancher qui se dérobe. Ben oui.
C'est ça. Comment vous l'avez su, Nathalie?
Oh, c'est plusieurs accumulations qui ont fini, que des amis, disons, qui les ont vus ou qui les ont aperçus ensemble, ou j'ai surpris des textos, bon, ce genre de...
Des textos?
Ce genre de...
Avez-vous fouillé dans les poches de...
Non, pas nécessairement, mais tu sais, parfois ça pop, là.
Puis on regarde.
Ouais. Mais aussi, il y avait plein de détails, parce que je sentais qu'elle s'éloignait de moi aussi. Je sentais qu'elle cherchait des excuses pour qu'on se voit moins, ou... Mais je sentais. Ça s'est passé sur un long temps quand même, plusieurs mois.
Justement, ça a pris combien de temps, ouais?
Avant que ça éclate, peut-être, je sais pas, peut-être un an et demi, où on voit qu'il est en train peut-être de se passer quelque chose. Mais moi, j'avais beaucoup de gens autour de moi qui me mettaient en garde, qui me disaient, mais il me semble que t'as pas l'impression qu'il se passe quelque chose. Puis moi, je disais, oui, je comprends que vous pouvez avoir cette dépression-là. Ils sont de plus en plus proches, mais elle ne pourrait jamais me faire ça. C'est impossible qu'elle me fasse ça.
Pour vous, c'était impossible.
Impensable. Voilà. Donc, j'ai longtemps un peu mis ma tête dans le sable en me disant que ma confiance était...
Est-ce que vous vous souvenez du moment qui a été le moment où vous avez dit, OK, là, c'est vrai, là?
Oh oui, j'ai eu une preuve, disons, accablante à un moment donné. Puis je les ai confrontés. Puis ouais, c'est sorti.
Les deux en même temps?
Non.
Séparément?
C'est à lui que j'ai parlé en premier, mais ouais.
Wow. Ouais. Puis vous aviez trois enfants à ce moment-là?
Ben, c'est ça. Donc ça, c'est l'aspect qui est plus... Parce que quand tu vis une histoire comme ça, forcément, tu passes à travers toutes sortes d'émotions, de nombreuses émotions négatives, envahissantes, et tu peux sombrer dans la dépression, disons, là. Mais l'affaire, c'est que si les enfants sont là, tu dois te contenir, et tu dois faire un énorme effort de résilience très vite, même si c'est presque impossible, là, parce que tu ne veux pas que les enfants soient affectés par ça. Les enfants, ça devient... parce que en plus de passer à travers un processus de séparation, que c'est déjà assez difficile comme ça, on s'entend, il y a beaucoup de deuil à faire quand on se sépare, c'est quelque chose, c'est une énorme épreuve en soi. Mais en plus, quand il faut composer avec ça, avec le fait, disons, que la nouvelle conjointe, ben, c'est l'ancienne amie, les
de
enfants
maman,
qui se connaissent. Ouais. C'est certain que c'est un petit peu troublant pour tout le monde, là. Ben oui. Et... Il faut pas laisser les émotions négatives envahir les enfants aussi. C'est faut les
parce qu'on l'haït, là. On haït le conjoint. On haït son conjoint. Puis on haït sa meilleure amie aussi, non?
Ben oui. Puis c'est très lourd à porter.
Comment on gère la colère?
Je suis pas quelqu'un qui veut vivre la colère comme ça. Oui, c'est difficile, ça. C'est ça qui nous détruit. C'est que si on était vraiment dans un monde idéal, on pardonnerait tout de suite, puis on passerait un autre appel, mais...
Comment vous l'avez géré, votre colère?
Ben, toutes sortes d'étapes, je dirais, qui se comparent un peu au deuil, là. Un peu de déni, le sentiment d'impuissance, la rage, le chagrin, la détresse. On passe par énormément d'émotions qui sont extrêmement envahissantes et toxiques, je dirais. Donc, tu dors plus, tu manges plus, tu penses qu'à ça. C'est difficile de travailler, c'est difficile de vivre. Ça prend toute la place dans le cerveau.
Ça vous envahit complètement.
Oh, vraiment.
Avez-vous eu l'impression qu'à un moment donné, vous alliez perdre les pédales?
Oui. Oui, ça m'a rendu dingue un peu. C'est difficile. Moi, je suis une personne quand même assez sereine en général. Je suis une personne... en paix, je veux dire, positive, là, je suis saine d'esprit, tout à fait. Mais non, à cette période-là, oui, je perdais les pédales. Et puis ça, c'est pas glorieux, mais je sais pas si... C'est incontrôlable. Ouais, c'est parce que quand tu fais confiance et qu'on te trahit, enfin, ça, c'est ma perception, puisque peut-être qu'elle n'a pas cette... peut-être qu'elle ne voit pas les choses comme ça, mais c'est une violence inouïe de se rendre compte que notre confiance n'était pas... que la personne n'était pas digne de cette confiance, en fait, compte. Pour toutes sortes de raisons. C'est sûr que c'est circonstanciel, mais c'est violent. Moi, je l'ai perçu violemment. Évidemment, je pense pas que c'était leur but à eux de m'infliger ça. Ça m'appartient, cette réaction-là, mais je crois pas que personne ferait mieux dans les circonstances. Enfin, je veux dire, je connais pas personne à qui c'est arrivé, vraiment.
Comment on repousse le désir de vengeance? Qui doit venir forcément avec ça, là.
Ouais, c'est bizarre.
L'avez-vous ressenti, ça?
Oui, mais ça restait dans ma tête. Mais pour les enfants, c'est pour les enfants qu'il faut prendre sur soi, parce que sinon, ça les éclabousse.
Complètement. On va s'arrêter ici, Nathalie. On va poursuivre avec votre histoire, puis je vais demander à Rosemarie Charest, là, qui écoute, de nous dire un peu comment elle voit les choses. Évidemment, il y a sans doute bien des gens qui écoutent, qui se disent « Oh mon Dieu, ça ressemble à mon histoire ». On va poursuivre avec les enfants parce qu'aujourd'hui, évidemment, votre ex-ami habite dans votre ancienne maison une semaine sur deux avec vos enfants. On revient tout de suite après. S'il y a des gens qui veulent intervenir, 514-790-9850. On parle de trahison par un conjoint, une amie, un ami, un partenaire d'affaires éventuellement aussi, collègue. Les gens peuvent vous trahir et ça fait énormément de mal, on le voit, puis ça peut prendre beaucoup d'années avant de se reconstruire. À tout de suite tout le monde. On entend l'histoire de Nathalie qui est assez incroyable, une histoire qui donne des frissons vraiment. 20 ans avec un conjoint, 3 enfants et il y a 7 ans, son conjoint de l'époque est parti avec sa meilleure amie d'enfance à elle. Et c'est difficile de s'en remettre. 7 ans plus tard, Nathalie nous raconte donc ce que ça a fait comme dommage autour de vous. Vous me dites, même vos amis, vous étiez un groupe d'amis très proches, vos parents qui l'avaient comme adoptée, même c'était comme une fille, c'était comme une sœur pour vous, là, cet ami-là.
Bien sûr.
Votre conjoint, quand même, on parle beaucoup d'elle, entre guillemets, mais il y a lui aussi. Mais vous semblez dire que c'est plus cette trahison d'amitié qui vous a fait le plus de mal. Et aujourd'hui, cette personne, donc, vit dans votre maison. Ça, moi, je trouve ça...
C'est plus ma maison, évidemment, mais...
C'est
oui,
quand même quelque chose,
là? Ouais, ils ont... Disons que c'était propice au niveau de l'espace et tout ça, parce qu'elle avait aussi ses enfants. Et donc, moi, je suis partie. Puis quelques mois plus tard,
quitté la maison?
Ouais,
votre propre décision?
Oui, c'est ça. On a séparé ça. J'ai vendu ma part, mais...
Est-ce que ça vous dérange qu'ils vivent ça encore dans votre ancienne maison? C'est votre cuisine, votre salle de bain, votre chambre?
J'en suis revenue maintenant, ça va. Là. C'est que du matériel quand on regarde ça. Mais à l'époque, ça me troublait plus pour les enfants, je dirais. De me dire... Je pense que j'aurais préféré qu'ils changent de maison. J'imaginais mes enfants qui se lèvent le matin, puis c'est elle qui est dans la cuisine à ma place. C'est sûr que moi, je trouve ça un peu étrange, là, un peu tordu.
Hey, c'est un film, Nathalie.
Moi, je trouve ça tordu. Mais bon, ça leur appartient.
Et ça les dérange pas?
J'en sais rien.
Mais les enfants, ils disent quoi aujourd'hui? Ils ont grandi, là. Ils avaient quel âge à l'époque?
Ils avaient 6, 9 et 13. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Non, c'est certain que c'est un sujet un peu tabou.
Avec les enfants aussi?
Oui, parce que je pense que ça leur fait mal. Donc, elles n'aiment pas trop qu'on évoque cette période.
Puis ils sont la moitié là-bas, la moitié chez vous?
Oui.
Vous êtes en garde partagée?
Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est la partie qui je dirais, pas évidente pour se remettre parce que, même si en même temps, c'est les enfants qui nous poussent, à faire notre deuil, puis à passer à autre chose, puis à essayer de se reconstruire, finalement, pour les enfants, pour leur sérénité à eux. Il reste que ça complique tout de même les choses, parce que la prise de distance est comme impossible, ou enfin, très limitée. Je pourrais pas dire je les raye de ma vie. Je peux pas ignorer ce qu'ils font, ou... Je peux pas. Je sais qu'est-ce qu'ils font, où ils sont...
Oh my God.
Je sais quand ils partent en vacances, je sais où ils vont, je sais ce qui leur arrive au quotidien, parce qu'évidemment, je ne vais pas empêcher mes enfants d'évoquer leur vie de famille.
Mais retournez-vous des fois dans votre ex-maison?
Non, Non. Oh non, non.
Puis parlez-vous à votre... Vous êtes bien obligé de parler au père de vos enfants,
oui,
parfois.
Oui, ben c'est ça.
Puis votre ex-ami?
Pas vraiment. Non, oui. non, pas vraiment. Ce serait difficile, je pense. Évidemment, c'est arrivé des moments où, inévitablement, ça doit se passer pour mm-hmm. des questions pratico-pratiques, mais non, je pense qu'on pourrait pas entrer dans le personnel, jamais. Là.
Est-ce qu'ils se sont excusés? Parce que ce qu'on n'avait pas dit aux auditeurs encore, c'est que pendant les plusieurs mois, ils ont nié. Hein? Vous les avez confrontés, puis ça, la fois que vous avez confronté, c'est pas venu « Ah ben oui, excuse-nous tout de suite. » Là, il y a eu plusieurs...
Oui,
ils vous disaient « Voyons donc, t'es folle, Nathalie, t'exagères, tu vois des affaires qui n'existent pas.
Ouais, »
Ils ont nié pendant longtemps.
Ouais, ben ça devait être difficile pour eux à admettre, mais oui. C'est certain qu'il y a eu une période où j'arrivais pas à tirer, à aller chercher la vérité. Je sais pas ce que j'aurais fait à leur place, ceci dit. Ça devait pas être facile à vivre pour eux non plus, on va se le dire. Là.
Est-ce qu'ils sont excusés?
Non, pas vraiment. Mm. Pas comme j'aurais souhaité. Pas comme j'aurais voulu. J'aurais aimé, qu'ils ouvrent leurs bras, qu'on pleure ensemble, qu'on s'explique, qu'on essaie de voir comment on s'organise dans les circonstances. J'aurais peut-être accueilli ça si c'était manifesté.
Bon, c'est une de vos filles qui vous a aidé. Elle était plus jeune. Là, elle vous a dit « J'ai besoin que tu sois forte, maman.
Ouais,
j'ai besoin d'un modèle de mère
fort. » Ça m'a donné un coup de fouet. Puis je suis allée chercher de l'aide après. J'ai eu besoin de thérapie. J'ai eu besoin d'antidépresseurs. Je pense que j'étais en dépression pendant un bon bout de temps.
Parce que c'est facile de se mettre en petite boule puis de plus bouger, hein?
Oui, puis même si on ne veut pas se victimiser, il reste que, comme je disais tout à l'heure, déjà le processus de séparation, c'est très difficile. C'est une épreuve en soi.
Non, c'est comme deux séparations en même temps.
Ouais.
J'aimerais avoir l'avis de Rosemary Charest là-dessus, comme psychologue. Rosemary,
la peine d'amitié.
C'est une double trahison ici.
C'est ça. Mais sans vraiment. Je ne peux pas me prononcer là, directement sur votre cas comme tel, parce que j'ai loin d'avoir toutes les informations. Mais j'ai vu suffisamment de personnes avoir d'immenses déceptions en amitié pour savoir que souvent c'est à ce niveau-là que ça le fait.
Vous comprenez que ça la dérange plus, que ça soit parce son ami à elle que son chum finalement qui la trahisse.
Ben, vous savez, dans tout le processus de séduction, dans tout le processus amoureux, on a toujours le sentiment qu'on prend un risque. Il y a quand même la zone de risque dans le processus amoureux, elle est attendue. En amitié, on a le sentiment de la certitude. Or, un être humain, pour son développement psychologique, il a besoin d'un sentiment de certitude par rapport à la confiance. C'est une expression « basic trust » en anglais. Mm. C'est la base même de notre développement. Or, on sait bien qu'il peut y avoir des petits accrocs à notre confiance, mais on doit sentir, on peut pas se promener dans la vie en doutant de tout le monde tout le temps. C'est impossible, ça. Mais en amitié, on développe particulièrement ce sentiment de confiance. Donc, comme c'est la base de la relation, lorsque c'est ébranlé, que ce soit pour des raisons amoureuses ou autres, mais c'est vécu comme une grosse trahison très rapidement. Mmh. Évidemment, quand en plus il y a la composante amoureuse, c'est pire.
Julie est avec nous. Bonjour, Julie.
Bonjour.
On vous écoute. Vous avez vécu la même chose? Une trahison
oui,
du genre?
Oui, heureusement, c'était pas une amie à moi, c'était une collègue de mon ex-conjoint de 23 ans, sa cadette, qui est plus près en âge de notre fils que de mon ex-conjoint. Puis oui, bon, c'est sûr que ça, c'est un choc total quand on l'apprend, parce que moi, j'ai vraiment rien vu venir. Mais je pense que la trahison a été plus quand moi, j'ai décidé de quitter. C'est sûr que, bon, je pense qu'on n'est pas tout à fait toutes là. Où moi, j'étais plus ou moins rationnelle. Moi, j'ai mis mon linge dans mon auto, puis je suis partie. Et je me suis, quand j'ai réussi à mettre le pied à terre et la tête en l'air, j'ai réalisé qu'on m'avait dépouillée. Je n'ai plus ma maison que je paie encore. J'ai plus nos biens communs, malgré qu'on n'était pas mariés. Tout était moitié-moitié. Mais bon, on a signé des papiers, des conventions. Et moi, je voulais juste régler ça. Donc, j'ai laissé aller beaucoup. Et maintenant, elle vit comme Nathalie, elle vit dans ma maison une semaine sur deux avec mes enfants, profite de ma résidence d'été. Je pense que moi, maintenant, je suis capable de me rendre compte que par rapport à mon ex-conjoint, elle m'a peut-être probablement rendu service. mais la trahison a été plus au niveau de l'aspect des enfants financiers. Ça a toujours été non, ben laisse-moi la maison pour les enfants, puis la maison pour les enfants, mais maintenant elle vit dedans. Même quand les enfants sont quand même grands, là, ils ont 18 et 15 ans, donc je pense que moi, c'est d'un point de vue trahison, ça a été d'en ajouter une couche au fait que j'ai été trompée pendant plusieurs années.
Aïe, 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 wow.
Ouais.
C'est une autre chose qui est extrêmement douloureuse, Julie. C'est le sentiment d'avoir été manipulée. Ouais. On a besoin de croire en quelqu'un. Et quand on croit aux gens, puis qu'ensuite on a le sentiment qu'on était dans l'erreur pendant qu'on y croyait, on se pose la question, mais ça a commencé.
On se trouve stupide, on se dit voyons.
Oui, puis moi, je veux vraiment dire aux gens, n'ayez pas honte, parce que souvent, ça engendre de la honte.
Ouais.
Alors, la personne même qui est victime...
On s'auto-dénigre.
On s'auto-dénigre. Osez parler à des gens autour de vous, parce que la probabilité qu'un jour ou l'autre, quelqu'un ne respecte pas notre confiance, elle est élevée. Elle est plus élevée que les accidents d'avion.
Ouais. On revient tout de suite après la pause. 514-790-9850 pour intervenir là-dessus. On parle de trahison ensemble ce matin. À tout de suite. C'est beaucoup plus fréquent qu'on pense. J'ai beaucoup de gens là, qui m'écrivent et qui ont vécu exactement la même chose que mon invitée Nathalie. Il y a Mélanie qui dit « Même chose avec mon ex qui est parti avec ma meilleure amie. » En plus, nous étions associés, elle et moi. Les enfants étaient adolescents. Je peux vous dire que ça n'a pas été facile. Annie, même chose. Son ex a presque fait la même chose. Là, c'est avec une collègue de travail et ils ont nié pendant longtemps jusqu'à ce qu'elle trouve des preuves. Elle dit franchement, c'est dégueulasse. Même quand elle était enceinte, elle a trouvé des échanges de textos avec des escortes. En tout cas, bref, visiblement, problème dans le couple. Mais au-delà de ça, trahison visiblement de... envers elle. Donc, plus fréquent, effectivement, qu'on pense. On a Marc Boilard avec nous, justement, Marc, qui l'a vécu à la fois avec un partenaire d'affaires et à la fois en amour. Bonjour, Marc.
Oui, puis aussi en radio, quand t'invites d'autres mondes que moi, je me sens très trahi. On va dire les vraies affaires.
On t'écoute.
Ben, tu veux laquelle des deux histoires?
Ben, celle que tu veux.
Ben, alors, je vais rebondir sur celle de Nathalie, qui est la même version, mais en version Pee-wee. C'est-à-dire que c'était une fille que j'avais rencontrée il y a quand même longtemps, puis qui était vraiment, vraiment à mon goût. Puis rapidement, elle me dit qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre, tu sais, parce que c'était vrai fait et tout. Et puis, c'est là que j'ai réalisé que l'espèce de sentiment amoureux qu'on a pour quelqu'un, c'est pas nécessairement un thermomètre. Des fois, c'est une switch, tu sais, ça fait on-off rapidement. Puis moi, j'étais très entiché de cette fille-là. Et j'avais un de mes meilleurs amis qui était mon confident pour toute cette histoire-là. Et qui, à un moment donné, m'informe à peu près un mois après que... Il avait commencé à la fréquenter.
T'sais. Oh!
Ouais. Puis, ce que ça fait, c'est que, contrairement à Nathalie, où est-ce que là, c'est vraiment une relation avec des enfants, etc., même si c'était une relation naissante, tu réalises que, entre la trahison et la confiance, c'est comme la porte à côté. Puis que, il ne s'agit pas que ce soit une histoire lourde ou super profonde pour que tout à coup, tu te rends compte que, en tout cas, moi, le sentiment, c'était pas comme de la colère ou négatif. C'est que je me suis dit, puis ça s'est fait très graduellement. Quand il m'a annoncé ça, parce qu'il ne me l'a pas caché, je sais pas comment réagir, je sais pas. Puis les jours ont passé, puis je me suis rendu compte que là, tout à coup, il devenait quelqu'un avec qui je pouvais pas tout dire. Mm. Puis c'est comme si on dirait que l'amitié, puis Rosemary pourra me corriger ou pas, mais l'amitié, c'est comme si, si ça atteint un certain niveau, ça peut pas redescendre.
C'est comme un traumatisme. Hein? À partir du moment où on a le sentiment que notre confiance n'a pas été respectée, il y a toute une côte à remonter pour que l'autre nous redonne confiance. Et c'est ça qui est tout l'enjeu en amitié particulièrement ou dans les relations familiales.
En même temps, ton ami, là, est-ce qu'il l'avait rencontré, cette fille-là, avec toi ou complètement par hasard ailleurs, dans un bar, puis là, boum?
Non, c'est ça qui est le plus drôle ou le pire, c'est selon. C'était quelqu'un, la fille en question avait besoin des services d'un avocat, j'avais dit, ben va voir mon grand ami. Ça fait qu'ils s'étaient rencontrés pour un déjeuner, pour des raisons de consultation juridique.
Mais c'est toi qui a été l'entremetteur, finalement.
Complètement.
Moi, c'est moins le grand enjeu et moins le fait d'avoir été, l'occasion pour les rencontrer que... Au moment où on fait une confidence à quelqu'un, et là que la personne sait autre chose et nous ne le dit pas, je pense que c'est ça
l'affaire. Mais là, il a pas nié trop longtemps, visiblement, quand même, Marc.
Ben, c'est que, tu sais, je veux dire, c'est parce que dans cette histoire-là, ce qui est drôle, c'est que, comme je te dis, moi, j'avais beaucoup de sentiments déjà probablement trop rapides pour la dame en question. Mais à partir du moment où je me suis confié régulièrement, on va l'appeler Max, il y a comme une situation où lui, je voyais qu'il m'avait rien volé. C'était pas ma blonde, c'était pas ma copine, ouais. C'était trop nouveau. C'était pas ça l'affaire. D'ailleurs, ça existe pas, cette notion-là de « je me suis fait voler mon chum ».
C'est fascinant. Oui, ben t'as raison de dire ça, parce que les jeunes, j'avais une discussion avec des jeunes dernièrement là-dessus, puis ils sont très, très, très à cheval là-dessus. Mettons que t'as 16 ans, puis ton ami a déjà sorti avec tel gars, ben toi, tu peux pas sortir avec tel gars, parce que c'est comme si tu volais le... Mais c'est plus le chum de ton ami. Mais tu sais, les jeunes, on a déjà été jeunes, puis c'est... Je me souviens, ça, c'est le genre de choses qui ne changent pas. On dirait qu'on on tolère pas ça.
Oui, mais ben, en tout cas, bref, moi, dans mon cas, je me disais, écoute, j'ai pas de droit sur elle, puis c'était même pas comme... Il n'y avait rien d'officiel, c'était naissant.
C'était pas ta blonde. Ouais,
non,
ouais.
Sauf que c'est pas ça le critère. C'est là que j'ai découvert que le critère, c'est pas la longévité ou les engagements. Mm. Le critère, c'est il y a des sentiments qui embarquent ou pas. Mm. Puis à partir du moment où il embarque, puis que ton meilleur ami ou presque... Et ton grand confident dans cette affaire-là, mais là, il se forme une obligation de respect, tu comprends? Mm. C'est pas genre « touche pas à elle, touche pas à
mais
elle ».
Mais ça, ce qu'on devrait dire, par exemple, là, c'est qu'être ami avec quelqu'un, accueillir les confidences de quelqu'un, ça vient avec une responsabilité.
Exactement.
Et avec la possibilité, à un moment donné, de dire « je ne suis plus à l'aise de recevoir tes confidences ouais. là-dessus ».
Mais il faut dire pourquoi.
Puis il va falloir dire pourquoi. Ouais, parce que la blessure, on minimise probablement ce qu'est la blessure pour la personne qui, elle, se sentait en confiance et qui, ensuite, sent qu'elle a été trahie ou qu'on n'a vraiment pas donné l'heure juste au moment où on accueillait ses confidences. Wow.
Merci beaucoup, Marc Boilard, qui était avec nous ce matin. Merci beaucoup, Rosemarie Charest.
Ça me fait plaisir.
Merci, Nathalie.
Ça fait plaisir.
Bonne chance.
Ça
merci
va,
de
va,
vous être ouvert sur ce pan de votre vie qui touche beaucoup plus de gens qu'on le pense, selon ce que je peux lire des messages que je reçois. On s'arrête ici, on se retrouve après les nouvelles.